Chapitre 38. Ensuite, il sembla à Cravel que la perquisition se prolongeait pendant une éternité. Enfin, les trousseaux de clés lui furent rendus. Il entendait, comme dans un songe, le sergent qui disait « Eh, c'est combien les formalités de ce genre sont désagréables, mais je dois exécuter les ordres que je reçois. » Il ne répondit pas. Une seule chose occupait son esprit, le lit vide. Les policiers se retirèrent. Maintenant, il se trouvait seul. Mais le danger était toujours présent. Nora disparut après longue. Décidément, le moment de fuir était venu. Il courut à un petit bureau d'acajou, l'ouvrit et, dans un tiroir secret, prit un coffret d'acier plein de dollars et de banknotes anglaises. Rapidement, il alla revêtir un costume de voyage. Sa voiture était au garage depuis des semaines. Il avait retenu sa place sur plusieurs bateaux en partance pour New York, et son passeport américain était en règle. Un des meilleurs passe-temps de Clay Shelton avait toujours été de forger des passe-paliers d'identité. Cravel en possédait pour n'importe quel pays étranger. Il entendit alors un pas rapide dans la salle à manger. Il engouffra l'argent dans sa poche et tâcha de rendre un peu de calme à ses traits. Sa sœur entra. « Oh, la police sort d'ici !» lui dit-il. « Oh, je sais, j'ai rencontré l'expédition sur la route. Ils m'ont arrêté et m'ont posé toutes sortes de questions. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne m'aient point parlé ni de Long ni de Nora. Mais où sont-ils ?»« Oh, Dieu seul le sait !» Elle le regarda, doutant toujours de sa véracité. « Ils sont pas ici ?»« Non !»« Et les autres ? Mais quels autres ?» « Ah, dit-elle, j'ai aussi rencontré une ambulance roulant vers Londres. Peut-être était-ce Nora ?» Les événements les dépassaient l'un et l'autre. Alice remarqua alors le costume de voyage de son frère. « Vous alliez partir ?»« Oui, je vais à Londres où j'ai affaire. » « Non, vous n'allez pas à Londres, vous fuyez. » « Quelle sottise, pourquoi fuirais-je »« Pourquoi ? Mais parce que c'est vous qui avez le plus à payer, parce que c'est vous qui êtes le plus plongé dans toute cette boue, dans tout ce sang. »« Qu'avez-vous fait de rouge ?» Il ne répondit pas. « Ah ah, vous avez assommé, et vous vous imaginez qu'il est au fond de la rivière, sous la voiture de Long. »« Eh bien, il n'y est pas !» « Hein ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire que Rouche est vivant. Il n'était pas dans la voiture quand vous avez fait rouler celle-ci dans l'eau. Il était revenu à lui pendant que vous conduisiez et il s'était laissé glisser sur la route. » Un silence de mort s'ensuivit. Enfin, Cravel demanda « Mais comment savez-vous tout cela ?»« Mais par le gardien du garage où Rouche a téléphoné à la police. » Cravel devenait de plus en plus pâle. « Ah, alors je m'explique la perquisition. » Puis, regardant sa sœur, « Avez-vous de l'argent ? » demanda-t-il. Oh, « J'en ai assez pour un moment. »« Eh bien, vous feriez mieux de quitter l'Angleterre. C'est la seule façon d'échapper. Êtes-vous sûr que ce soit la seule façon ?» dit-elle gravement. Que voulez-vous dire ? Vous cherchez la meilleure façon pour une souris d'échapper au chat qui joue avec elle. C'est en effet notre cas. Il regarda autour de lui nerveusement. Oui, il faudrait leur téléphoner et les prévenir. J'ai déjà essayé, mais savez-vous qui j'ai trouvé au bout du fil ? Un policier. Et vous pensez toujours pouvoir sortir d'Angleterre ? Mais que faire ? Partir, en effet. Sortir, oui. Comment ? Elle le regarda fixement, mais de la façon dont Jackie est parti. Il baissa les yeux devant elle. Maintenant, il n'essayait plus de jouer au plus fin. Il murmura: Mais Jackie, il le fallait, vous le savez bien. Ah, peut-être, dit-elle. Puis, après un silence, elle demanda: Où alliez-vous quand je suis entrée? Bien, cherchez ma voiture. Elle haussa les épaules. Votre voiture. Mais à chaque porte, à chaque grille, deux policiers et une motocyclette vous attendent. Il n'est plus possible de sortir de Hertz's que de l'enfer. Il resta muet. Un instant, elle regarda sans pitié cet homme désemparé. Puis elle quitta la pièce. Il s'était assis, tremblant, le visage défait, se mordant les ongles, essayant encore de rassembler ses pensées, de forger un plan. Tout à coup, une voix l'appela: Cravelle! Il fut debout, comme mu par un ressort, et il ouvrit la porte. Quelqu'un était là, face à lui, le considérant en souriant. Arnold Long. Chapitre 39. Un léger pansement sur la tempe droite, c'est tout ce qui décelait que Long eût fait une mauvaise chute. Son sourire, sa contenance un peu ironique, étaient toujours les mêmes. Vous êtes décidément un mauvais gardien de morgue, mon cher, dit-il à Cravel. Qu'avez-vous pensé de mon rival tout à l'heure? Oh, voilà un qui s'est perquisitionné. Le directeur retrouvait la parole et c'était pour demander: Mais d'où sortez-vous? Mais vraiment, vous êtes un enfant, mon pauvre ami. Et dire que vous en êtes cru un grand forban. Vous voulez savoir d'où je sors? Mais de la fameuse chambre numéro 3. J'aurais pu mourir là si quelque bon samaritain était venu m'y retrouver. Mais où est Nora? Ah, vous parlez de Mademoiselle Sanders, je suppose. Mais à quoi imaginez-vous qu'ait pu servir cette perquisition matinale, si ce n'était pour vous entraîner dans une certaine partie de la maison pendant que l'on sortait Miss Sanders de l'autre? Depuis mon premier séjour à Hertz's, je possède les clés de toutes vos portes. À vrai dire, j'ai été aidé tout à l'heure par un inconnu que je ne vous nommerai pas. Chose étrange, depuis qu'il se trouvait en présence d'un danger précis, Cravel reprenait son sang-froid. Même il retrouvait le goût du combat. Cependant, le détective continuait. Je suis venu vous donner une dernière chance, Cravel. Oh, elle est faible, je ne vous promets rien, mais je tiens tellement à savoir exactement comment Monkford est mort que je ferai peut-être quelque chose pour vous si vous dites la vérité. Ah oui, ainsi, me connaissant comme vous me connaissez, vous supposez que je vais dénoncer mes amis. Il regardait Long bien en face. Dites-moi plutôt où est ma sœur. En sûreté, partie avec un ami. Arrêtée? Long acquiesça. Oh, je ne pense pas qu'elle soit bien sévèrement condamnée. Elle sera la seule, d'ailleurs. Peut-être que Jackson Crayley aurait pu échapper lui aussi, mais vous avez devancé le jugement. Vous l'avez exécuté, et vraiment, Cravel, c'est là une de vos plus mauvaises actions. Cravel ne semblait guère écouter son interlocuteur. Il regardait le parquet en réfléchissant. Les couleurs affluaient de nouveau à son visage. Et tout à coup, il leva les yeux. Ah, si vous voulez savoir comment Monkford est mort. Oh, après tout, pourquoi pas? C'est vous qui l'avez tué? Non, non, ce n'est pas moi qui ai tiré. Alors qui? Personne. Il s'est tué lui-même. Mais on n'a trouvé auprès de lui aucune arme. Si, vous avez même tenu l'arme entre vos mains, sans vous en douter. Venez, allez, vous allez tout savoir. L'on le regarda et le suivit vers l'ancien appartement de Mumford. Arrivé devant la porte, prêtez-moi donc ce passe-partout qui m'appartient, dit Cravel. Il ouvrit lui-même la porte de la chambre tragique. En entrant, il jeta un regard vers le trou béant par lequel avait disparu Arnold quelques heures plus tôt et il dit: Attention, nous avons failli avoir ici un accident mortel ce matin. Long ne put s'empêcher d'apprécier l'humour de cet homme qu'il avait l'intention de faire pendre et qui le savait. Voilà, expliqua Cravel. La chose fut très simple, quoique très ingénieuse. Toutes les choses ingénieuses sont simples. À ce moment, il inclina la tête comme s'il entendait un bruit. Ah, le téléphone, dit-il, puis-je descendre et répondre? L'inspecteur consentit. Il savait que la maison était bien gardée et qu'aucune fuite n'était possible. Il profita de l'absence de l'autre pour examiner les dégâts faits dans la chambre. Enfin, le directeur remonta. C'était pour vous, dit-il un peu essoufflé. J'ai fait brancher la communication ici. L'appareil fonctionne encore bien que la chambre ait été livrée aux ouvriers. Long prit le récepteur et écouta. Mais la ligne semble morte, dit-il. Vous croyez? Essayez de sonner. Arnold avait déjà le doigt sur le bouton. Il allait appuyer quand ses yeux rencontrèrent ceux de Cravel. Il y eut on ne sait quoi de terrible et de triomphant. En même temps, une sorte de pressentiment le visitait, celui d'un danger latent, inexprimable. Il n'en acheva pas moins son geste, mais tout en pressant le contact électrique, il éloigna de son oreille le récepteur. Et alors, une explosion terrible l'assourdit. Il laissa tomber l'appareil sur le plancher et se retourna une main sur la tempe. Cravel, debout, s'appuyait au mur face à lui. Un air étrange et presque comique de surprise modifiait son visage soudainement pâle. Du sang coulait d'une blessure à son front. Il se balança lentement de droite à gauche et tomba tout d'une pièce sur le plancher. Il était mort. Long se précipita dans l'escalier et appela à l'aide. On souleva le corps, on l'étendit sur le lit. Il n'y avait plus rien à faire. Mais qu'est-il arrivé? Demandait l'aide de Long. Ce dernier ne répondit pas. Il prit le récepteur du téléphone et l'examina. Comme dans tous les récepteurs, un trou de 2 cm de diamètre se trouvait au centre, mais derrière ce trou, il n'y avait pas trace du diaphragme usuel. À la place, un simple tube d'acier s'enfonçait dans la poignée de l'appareil, qui se trouvait ainsi transformé en un revolver très habilement maquillé. Et le coup partait grâce au contact de la sonnerie électrique. Cravel avait promis l'explication de la mort de Mankford. Il avait tenu parole. Arnold comprenait aussi pourquoi, alors qu'il allait commencer l'examen de cette chambre, on avait provoqué une explosion dans celle de Nora. Pendant qu'il y courait, on avait pu changer l'instrument et y substituer un récepteur ordinaire. Rien ne le retenait plus dans cette maison sanglante. Il revint à Londres. Au passage, il s'arrêta à la station de police où était retenu Alice Cravel et lui apprit la mort de son frère. Elle parut soulagée par cette conclusion. Elle dit: Oh, je préfère cela pour lui. Vraiment? Vraiment, oui. Mais vous-même, Vous l'avez échappé belle. Vous saviez que ce traquenard m'attendait. Oh, celui-là ou un autre. En arrivant chez lui, le détective apprit que Sir Godley était rentré à Berkeley Square. Il en fut très rassuré. Cependant, sa tâche était loin d'être terminée. Il se rendit à la préfecture, obtint les mandats d'arrêt nécessaires et, accompagné par Rouche, très fier d'avoir échappé à un bain froid, se présenta au bureau de Maître Henri. L'avocat, qui le croyait mort ou mourant à Hertz's, ne sut pas cacher son émotion. Il se laissa tomber sur un siège, incapable de se mouvoir ou de parler. L'image même de l'épouvante. « Désolé de vous produire cet effet, » dit Long. « Cela me prouve néanmoins que vous devinez la nature de ma mission auprès de vous. Je vous arrête comme complice du meurtre de Joshua Monkford le 1er août dernier. Mon devoir me commande en outre de vous prévenir que chaque mot que vous prononcerez désormais servira pour ou contre vous. Prononcez un mot, le jeune légiste n'y songeait pas. Ses yeux semblaient vides de toute compréhension. Il restait comme figé, et ce ne fut que lorsque le policier lui saisit le bras qu'il sembla quelque peu réagir. Il bégaya. « Mais où est Cravel ?»« Mort. »« Mort ?» Et tout à coup, Henri éclata de rire. « Comme c'est drôle, dit-il, comme tout cela est drôle !» Il balançait la tête de droite à gauche, secoué par un rire stupide qui ne cessa pas lorsqu'on le fit entrer dans le taxi qui l'attendait en bas. Chapitre 40. Miss Revelstock était agacée. Sa secrétaire lui manquait. Elle contemplait avec ennui la pile de lettres qui tremblait sur son bureau. Presque toutes ces lettres étaient recommandées et urgentes. La plupart contenaient des réclamations de fournisseurs, les notes n'ayant pas été payées depuis des mois. Depuis la mort de Monkford, la situation financière de la vieille dame était embarrassée. Sa banque l'avait prié de vouloir bien mettre à jour son compte, et elle avait dû vendre à perte pas mal d'actions. Il lui restait fort peu de disponibilité dans ce moment. Une autre chose l'inquiétait. Elle n'arrivait pas à téléphoner à Hertz's ni à son homme d'affaires, Henri. À chaque appel, le signal pas libre lui avait été opposé et ses réclamations n'avaient abouti à aucun résultat. Pour se distraire de ses pensées plutôt sombres, Mademoiselle Revelstock prit sa boîte à ouvrage, s'assit près de la fenêtre et se mit à coudre comme elle en avait l'habitude. De temps à autre, elle donnait un regard à la rue. Elle vit un sillard dans l'ombre descendre de taxi, suivi de deux hommes. Elle entendit sa femme de chambre accourir pour répondre au coup de timbre. Elle se précipita au-devant de cette fille. « Retournez à votre cuisine, j'ouvrirai moi-même. » Elle avait gardé en main ses ciseaux. Dès qu'elle fut seule, elle coupa le fil de la sonnette, puis avec une grande rapidité, elle passa dans son bureau, saisit un manteau, un chapeau, ne perdit pas de temps à les mettre, mais empoigna un sac assez lourd qui semblait tout préparé sur la table. Elle descendit ainsi chargée par un escalier spécial jusqu'à son garage et mit sa voiture en marche. Puis elle sortit en prenant soin de ne point passer devant la maison. Elle se dirigea à vive allure vers la gare de Liverpool. Un peu avant la station, elle abandonna sa voiture. Elle s'enfuit à pied prendre un billet pour Clarkton et s'installa paisiblement dans une voiture de première après avoir acheté les journaux du soir. Elle eut la chance de se trouver seule dans son compartiment. L'aide d'un peigne et d'une petite boîte à poudre lui permirent d'opérer un changement notable dans son apparence. Clacton-sur-Mer était très fréquenté à cette époque de l'année. Trois fois par semaine, des excursions en bateau menaient les touristes jusqu'à Ostende. Elle se rendit donc dans cette ville élégante, n'ayant pour tout bagage que la lourde valise emportée de Londres. Mademoiselle Revelstoke était nantie de tous les passeports nécessaires. Elle ne resta à Ostende que le temps d'aller dans un grand magasin où elle fit l'emplette d'un costume complet de paysanne aisée. Il est certain que lorsqu'elle sortit du petit hôtel où elle avait changé de vêtements, fait disparaître en grande partie la teinture de ses cheveux en les lavant à l'eau de cristal, et dissimulé ses yeux derrière une paire de lunettes à verre fumé, l'ongle lui-même ne l'aurait pas facilement reconnu. Elle fit un paquet de ses vêtements abandonnés, paya sa note et se dirigea vers la gare. En route, elle acheta un énorme parapluie. Puis elle monta dans le train de Bruxelles. De là, elle se rendit à Liège où elle s'installa dans un petit logement tranquille où elle passa son temps à lire des journaux anglais. Elle apprit ainsi la mort de Cravel et l'arrestation d'Alice et d'Henri. La pensée d'Henri la remplissait de détresse. Elle aimait profondément cet homme et son chagrin augmenta lorsqu'elle sut que le prisonnier ne pouvait être interrogé, les docteurs certifiant que son état mental ne le permettait pas. Un mois passa. L'enquête était retardée de semaine en semaine par l'état de faiblesse d'esprit du jeune avocat. La vieille dame apprit aussi qu'on n'avait pas suffisamment de preuves contre Alice Cravel et que celle-ci allait être libérée. Elle n'aimait pas Alice, qui était une amie de Jackson Crayley, qu'elle détestait. Et puis Alice avait par moments des crises de scrupules assez gênantes. Miss Revelstoke se faisait appeler Madame Pontière, et il semblait que rien ne pût jamais venir la troubler dans sa nouvelle retraite. Elle avait obtenu une carte d'identité. D'après les journaux, on la supposait enfuie en Amérique. Un matin, en sortant de la cathédrale après l'office, elle se trouva face à face avec un jeune homme qui la salua poliment. « Miss Revelstoke, je crois. » Sans mot dire, elle accompagna Long à la police. Pendant le trajet, Arnold eut l'impression de marcher à côté de la haine personnifiée. Les formalités d'extradition furent rapides et pendant tout le voyage du retour, la vieille dame ne prononça pas un mot. Ce ne fut qu'en arrivant à Londres, avant d'être incarcérée, qu'elle demanda « Comment va Henri ?»« Oh, je crains beaucoup, fit Long, que votre fils ne plaide plus jamais. » Elle ne répondit pas, mais un regard trahit le désespoir de cette femme dont la volonté était de faire. « Naturellement, ajouta-t-elle, Alice a parlé, mais cette fille est sans courage, aussi molle que son frère. Quant à celui-là, c'était bien la peine d'en faire un docteur. » C'est ainsi que Long apprit quelle était la profession réelle de Cravel. Le jour où Miss Revelstoke fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité, le pauvre fou souriant qui était à ses côtés, au banc d'accusation, fut envoyé dans un asile à la disposition de la cour. Ce même jour, Arnold se présenta à son chef et lui remit une lettre que celui-ci lui posément, comme il faisait toute chose d'ailleurs. « Mon cher Long, je suis désolé que vous ayez décidé de nous quitter. Vous êtes désigné pour un avancement que certes vous méritez, et nous allons nous trouver fort en peine pour vous remplacer. Quand voulez-vous avoir votre liberté ? Mais immédiatement, si la chose est possible, répondit Long. Oui, c'est de vous donner satisfaction, mais je crois que vous ne pourrez guère être libre avant 3 ou 4 jours. Bon, cela suffira amplement. Le démissionnaire serra la main du colonel et se rendit à Berkeley Square, où il arriva en même temps que son père qu'accompagnait Nolan Sanders. Le banquier venait d'aller chercher la jeune fille à la campagne, où elle était restée pendant toute la durée du procès, sans avoir la moindre nouvelle. Son état, en effet, avait exigé le plus grand calme pendant un mois. Elle n'en eut pas moins, plus tard, l'occasion de frissonner lorsqu'Arnold lui raconta en détail tous ces événements. « Abominable !» dit-elle alors à voix basse. « Oui, moi-même, j'avais un peu pitié d'elle. « Mais c'est moi qui devrais en avoir pitié !» dit Sir Godley, choisissant un cigare. « Oh, je dois d'ailleurs dire que je n'en éprouve aucun. »« Je ne comprends pas, » dit Nora. « Moi, j'ai vécu avec elle et elle me traitait convenablement. » Le vieil homme hésitait à répondre, et ce fut son fils qui insista. « Dites-lui pourquoi vous devriez avoir pitié, allons. »« Oh mon Dieu, parce que... » À ce moment précis, même l'appel du téléphone retentit. Sir Godley prit le récepteur et écouta, et Arnold vit un nuage passer sur son visage. « C'est extraordinaire !» dit le banquier. Quelqu'un, à l'autre bout du fil, semblait plaider avec insistance. Ce quelqu'un était le chapelain de la prison où se trouvait Miss Revelstock. « Soit !» répondit enfin Sir Godley, « je vais venir !» Les yeux du fils et du père se rencontrèrent. « Elle veut me voir !» dit-il brièvement. « Vous, mais pourquoi vous ?» demanda la jeune fille. Elle distingua alors dans l'expression de Sir Godley quelque chose qui fit qu'elle n'insista pas. C'est en silence qu'elle le regarda quitter la pièce, tandis qu'il répétait « Oh, puisqu'elle veut me voir, il faut que j'y aille !» Chapitre 41. Sir Godley se dirigea donc vers la prison. L'après-midi était beau, mais eût-il tonné et plu à torrent que le vieillard n'en eût rien remarqué. Il allait le plus lentement possible, absorbé dans ses pensées, soupirant de temps en temps. Il murmurait « Quelle femme exceptionnelle ! Quel chef pour tous ces terribles ! Voilà 30 ans que nous ne sommes pas rencontrés, mais je gage que cette entrevue ne sera guère plaisante. » Il arrivait. Il fut admis immédiatement et un gardien en uniforme le conduisit près du directeur. Là, le chapelain l'attendait, celui-là même qui lui avait téléphoné. Sir Godley apprit alors qu'une telle visite était une faveur accordée à Mademoiselle Revelstock malgré les règlements, et qui devait s'engager à ne commettre de son côté aucune indiscrétion. Recommandation superflue. « Elle est d'un calme extraordinaire, » dit le chapelet, qui semblait avoir subi fortement l'influence de la prisonnière. « Oh, je vous demande pardon d'avoir tant insisté, mais elle prétend avoir à vous communiquer quelque chose de très important. » « Très bien, » dit Sir Godley. « Conduisez-moi. » Ils arrivèrent dans un grand hall borné de galeries d'acier sur lesquelles s'ouvraient de petites portes à intervalles réguliers. Mademoiselle Rivelstock occupait une cellule assez grande au rez-de-chaussée. Un gardien ouvrit la porte et le banquier entra. « Je suis supposé assister à votre entrevue, » dit le chapelain. « Le règlement l'exige, mais je me contenterai de laisser la porte entrouverte et je resterai à l'extérieur. » Sir Godley eut besoin de faire un grand effort de volonté pour franchir cette porte. Il se décida enfin. La prisonnière se tenait debout, appuyée contre le mur, très tranquille. Ses yeux noirs souriaient. Oh, elle n'avait pas encore changé ses vêtements contre l'uniforme habituel. Elle portait toujours la robe qu'elle avait le jour de son jugement, un tailleur bleu sombre. Le soir même, on devait la transférer dans une autre prison hors de Londres. « Bonjour, Godley, je vous remercie d'être venu. » Il inclina légèrement la tête. Elle ajouta « Mes compliments à votre fils. Oh, c'est un habile homme. Sans doute hérite-t-il son intelligence de sa mère. » L'insolence du propos ne troubla aucunement Sir Godley. Ainsi, depuis 25 ans et plus, elle n'avait pas changé. Oh, elle était bien la même femme, pleine de sang-froid, ironique, presque indifférente à son sort. C'est ainsi qu'il l'avait toujours connue. « Bien sûr, dit-elle, je n'avais d'abord pas pensé qu'Arnold fût apparenté à Clay. Je croyais à une simple coïncidence. Oh, mais si j'avais su la vérité dès le début, cela aurait sans doute beaucoup influé sur la marge des événements. » Le désir de le condamner était peut-être de faire parler son interlocuteur. Dans ce cas, elle fut fort désappointée, car il se contenta d'acquiescer silencieusement. L'âge les avait beaucoup changés tous les deux, au moins physiquement. Mais malgré toutes les rides, le ton gris de la peau, la maigreur des joues, il retrouvait parfaitement les traits qu'il aurait tant voulu oublier. « Voilà, je désire que vous vous occupiez d'Alice et d'Henri, » dit-elle d'un autre ton. « Non pas qu'Alice m'intéresse beaucoup, après tout, elle peut s'occuper d'elle-même. Mais d'Henri, on me dit que sa raison ne reviendra jamais. » « Je vous en prie, veillez à ce qu'il ait les soins nécessaires. »« Entendu, je ferai encore cela pour vous, » dit le banquier sans hésitation. Elle regardait curieusement. « Vous avez changé, mais votre voix est la même. Oh, je la reconnaîtrai n'importe où. Comme tout cela est étrange. Clay est mort et c'est votre fils qui s'est jeté sur sa trace. La mort... le suivait pas à pas. Elle parlait sans amertume. On aurait pu penser que rien dans cette aventure ne la concernait personnellement. Godley ne pouvait s'empêcher d'admirer son calme et son implacable volonté. « Les policiers que j'ai vus, reprit-elle, appellent votre fils l'ongle Vénard. Évidemment, la chance l'a servi. « Dites-moi, Godley, ne trouvez pas curieux que j'accepte si facilement cette condamnation? Vous savez combien Clay était un admirable chef. Il était extraordinaire. Il pensait à tout. Il n'aurait jamais été pendu s'il n'avait eu dans la lutte qu'il engageait à la banque avec Arnold son veston complètement déchiré. C'est bien qu'on le lui enleva pour lui en donner un autre. » Godley ne comprenait nullement ce qu'elle voulait dire. Il ne se souvenait point qu'aucune arme ou aucun papier se fût trouvé dans les poches de ce veston ou dans ce veston lui-même. Mais la vieille femme continuait. « Vous aurez le temps plus tard de réfléchir à ce que je vous dis en ce moment. C'est un fait que Clay serait vivant. » Que Clavel, que Jackson Crayley seraient vivants eux aussi, et que ce pauvre Henri ne serait point fou, et que moi je ferais de la couture tranquillement chez moi, Si Arnold n'avait pas été votre fils, Sir Godley la regarda figurement. Mais Monkford et tous les autres qui ont été tués, le juge, l'avocat, le bourreau, sont-ils pas morts par la faute de Clay? Oh, je vous le dis en vérité, je suis reconnaissant à Arnold d'avoir fait arrêter cet homme. Il a fait son devoir vis-à-vis de la société, et pour moi, je n'éprouve ni fausse pitié ni remords. La détenue continuait à sourire. Elle prit une feuille de papier soigneusement pliée qui se trouvait sur une tablette et la lui tendit. « Ceci vous expliquera mieux ce que je voulais exprimer, » dit-elle. Avant qu'il ne tînt la feuille, elle la lâcha malencontreusement, si bien que le papier tomba aux pieds de Sir Godley. Il fit un pas en avant et se pencha pour le ramasser. Ce fut le cri du prêtre qui se tenait à la porte qui servit alors le banquier. Autrement, il aurait reçu entre les deux épaules le coup que lui destinait Miss Revelstoke, dont la main s'était soudainement armée d'une lame mince et acérée. Par deux fois, elle essaya de frapper et deux fois, elle manqua son coup. Alors, se reculant brusquement à l'autre bout de la cellule, elle arracha un bouton de sa jaquette et porta sa main à sa bouche. Tous ces mouvements s'étaient effectués en quelques secondes. Déjà, l'étroit espace était plein de gardiens. Miss Revelstoke n'offrit aucune résistance. Elle laissa tomber son couteau sur le dallage. On remarqua alors que le manche avait la forme d'un talon de chaussure. Clay était décidément un homme qui pensait à tout. Pendant tout le procès, cette lame de rasoir avait pu être dissimulée entre les semelles des bottines qui chaussaient l'inculpé. Terriblement ému par cette scène, Sir Godley s'éloigna jusqu'au bureau du directeur. Il y fut bientôt rejoint par le prêtre dont la physionomie débonnaire était bouleversée. « Mais aviez-vous donné quelque chose à cette femme ?» demanda-t-il. Sir Godley le regarda avec étonnement. « Lui donner quelque chose, que voulez-vous dire ?» L'autre hocha pensivement la tête. « Mais elle est morte. Un des boutons de sa jaquette est arraché. Oh, c'est là que devait se trouver le poison !» Ainsi le banquier comprit-il pourquoi la perte de son veston n'avait point permis à Clay Shelton d'échapper au gibet. Certes, Clay Shelton était un chef, mais les plus prévoyants se trompent parfois. Chapitre 42. 15 jours avaient passé. L'enquête ouverte après la mort de Miss Revelstoke avait suscité l'intérêt pendant un instant. Maintenant, tout était oublié. Nora Sanders s'était retirée provisoirement dans une propriété de Sir Godley, dont elle suivait volontiers les conseils. Elle avait décidé, d'accord avec lui, de ne pas accepter l'héritage de Monkford. Elle avait quelques bonnes raisons de croire que le testament était faux. Le banquier se remettait peu à peu de ses émotions dans cette même propriété. Un soir, alors que les domestiques s'étaient retirés après le dîner, il interpella la jeune fille. « Avez-vous lu tous les détails de l'enquête ?» Nora secoua la tête. « Non, Arnold n'a voulu me laisser lire aucun journal. Oh, j'ai simplement vu dans la rue un sous-titre qui a attiré mon attention. Histoire extraordinaire d'un banquier. Cela vous concerne-t-il ? » ?»« Oui, avoua Sir Godley avec un triste sourire. Eh, cette histoire extraordinaire est celle que j'allais vous raconter lorsque je fus appelé à la prison. » Il poussa un long soupir et alluma une cigare avant de parler. Miss Revelstoke avait été ma femme, voilà ce que vous ignoriez. Toute l'aventure des terribles n'a pas paru dans les journaux. Mon fils et moi avons fait tout ce que nous avons pu pour éviter la publication d'un tas de détails inutiles. Clay Shelton était mon frère, ou plutôt mon demi-frère. Il eut toujours un caractère difficile, pervers, sans scrupules. Jeune homme, il vola mon père et ensuite me vola moi-même. Et tout de suite après, il s'enfuit. À ce moment, j'étais fiancé à une charmante jeune fille, une Danoise qui s'appelait Miss Oslander. Elle était venue en Angleterre comme institutrice chez des amis à nous. Oh, je l'avais rencontrée à une garden party. Je tombais amoureux d'elle à peu près au moment de la fuite de mon frère et je l'ai épousée. Il prit alors un temps et secoua la cendre de son cigare. Ma chère enfant, oh, je ne vous souhaite pas semblable expérience. La femme que j'épousais semblait la plus douce, la plus aimable, la plus pure des jeunes filles. Mais le jour même du mariage, dès les premiers instants de vie conjugale, elle laissa apparaître son cynisme révoltant. Elle était amoureuse de mon frère, et la seule raison pour laquelle elle m'avait épousé était le désir de donner un nom à l'enfant qu'elle attendait de lui. Et pourquoi me fit-elle cet aveu? Oh, je l'ai jamais très bien compris. Sans doute voulut-elle me blesser, me révolter, afin d'échapper aux manifestations de mon amour. Elle ne me cacha pas qu'elle me détestait. J'étais un bon garçon à cette époque, plein d'illusions et cultivant la plus haute opinion des femmes. Oh, la désillusion fut brutale. Nous allions à Copenhague en voyage de noces, et c'est pendant la traversée de la mer du Nord qu'elle me fit ses aimables confidences. 3 jours après, nous arrivions dans la capitale du Danemark. Elle m'abandonna en me disant qu'elle allait faire quelques emplettes. Je l'attendis pour le dîner et au bout d'une heure, je reçus un petit mot où elle me signifiait son intention d'aller vivre sa vie de son côté. Et elle ajoutait qu'elle savait où trouver le vrai bonheur. Immédiatement, je fis le nécessaire pour obtenir le divorce. Oh, je crois bien qu'elle s'est remariée. Le 9 février 86, c'était la troisième date gravée sur le panneau du bateau, interrompit Arnold qui venait d'entrer. Mais une autre indiquait l'arrivée au monde de Crowley ou Jackson Crowley Long. Crowley était le nom d'un château de notre famille en Yorkshire, reprit Sir Godley. Pour moi, oh, jamais j'entendis parler de mon frère ni de mon ancienne femme, jusqu'au jour où mon fondé de pouvoir vint me trouver pour m'avouer qu'il avait payé 60 000 livres sur une fausse lettre de change. Ma première pensée fut naturellement de m'adresser à la police. Cependant, je voulais d'abord voir le document et je remarquai 2 lettres au crayon. J.X. Je reconnus immédiatement l'écriture de mon demi-frère. Le X de John était très particulier. Il avait imposé ses initiales uniquement pour me braver. Je payais donc les 60 000 livres sur ma fortune personnelle et je mis une annonce dans le Times qui commençait par JX. J'ai payé une fois, mais je ne paierai pas une seconde. John, d'ailleurs, ne tenta plus de s'en prendre à moi. Il commença alors la série de ses faux à travers le monde. Faux qui rendirent le nom de Clay Shelton à la fois fameux et infâme. Le banquier se tut pendant un instant, puis il reprit après avoir médité. Il y a pourtant une chose que j'admirais en Clay Shelton. Oh, oui, je préfère lui garder ce nom. C'est la volonté et la discipline qui présidèrent à toute sa vie. Il était marié, il avait une nombreuse famille, et jamais il ne vécut avec elle que 3 mois par an, alors qu'il la retrouvait dans une petite station balnéaire de la Baltique. Tous les enfants furent élevés au Danemark. Ils parlaient le danois couramment. Et lorsqu'ils furent majeurs, Clay eut l'audace de leur avouer quels étaient ses moyens d'existence. Ils pensaient que s'ils restaient associés les uns aux autres, ils seraient à peu près invulnérables. Il exigea seulement qu'ils parussent n'avoir aucune relation ensemble. La mère revint donc en Angleterre jouer le rôle d'une vieille fille. Et les garçons choisirent des professions diverses. Cayley fut un profiteur prétérien. Il acheva d'abord une ferme qui ne lui réussit guère d'ailleurs. Il acquit alors une maison sur la rivière et sa tâche consista désormais à voyager sur le continent, à s'acquainter avec des gens riches et à se procurer leur signature ainsi que tous les renseignements possibles sur leur vie privée. Henri devint avocat et le second fils Cravel, directeur de Hirtshals. Il était secondé par Alice, comme vous le savez. Cravel était le bras droit de son père. Quant à Cayley, sans doute aurait-il préféré ne point faire partie de la bande. Il n'était d'ailleurs pas très intelligent. Et c'est lui qui perdit son père lors de l'arrestation de celui-ci, car il eut la mauvaise idée de lui glisser un revolver tout en paraissant prendre parti pour la police. En fait, Cayley fit des pieds et des mains pour quitter l'association. En cela, il était d'accord avec Alice. Ces deux-là s'aimaient beaucoup. Mais Cravel et Miss Revelstoke ne leur permirent jamais d'échapper au terrible. C'est elle qui s'habillait en homme. C'était elle, le professeur, qui préparait toutes choses, engageait les comparses nécessaires. Cravel était toujours près d'elle pour exécuter l'assassin lorsque celui-ci avait accompli sa sinistre tâche. C'est Cravel qui exécuta Cayley, dont il blâmait la mollesse et dont il se méfiait. C'est lui qui tua Harry après que cet ancien soldat eut tenté de le débarrasser d'Arnold. Or, la pseudo-Miss Revelstoke avait besoin d'une secrétaire. Elle vous employa, vous, Nora, cherchant à se servir de vous pour alimenter les finances de la bande. C'est pourquoi elle vous envoya chez Monkford, sachant combien elle serait sensible à votre jeune beauté. Oh, elle ne désirait pas vous voir épouser, Monkford, dont la mort était certainement décidée. Mais il fallait que le testament fabriqué en votre faveur parût plausible. Enfin, c'est elle qui vous envoya la fameuse bague. Malheureusement pour elle, Arnold avait déjà vu cette bague sur un de ses portraits. Voilà le début de la piste. Quand il vint me trouver en me décrivant le bijou, je pus affirmer que cette bague était celle que j'avais achetée pour ma femme le premier jour de mon arrivée à Copenhague. J'avoue que j'avais autrement aucune idée de l'identité de Miss Revelstoke, jusqu'au jour où, sortant pour aller mettre une lettre à la poste, je remarquai le visage d'un vieillard qui passait dans une voiture. Ses yeux fixèrent les miens, et je fus certain tout de suite qu'ils appartenaient à celle qui avait été pour moi Alicia Ostlander. Je suivis la voiture, plein des sentiments que vous pouvez imaginer. Elle s'arrêta en différents endroits, puis je la vis entrer dans la remise de Miss Revelstoke. Il n'y avait plus de doute pour moi. Miss Revelstock et Alicia Slander étaient la même personne. Quelques instants après, la voiture personnelle de Mademoiselle Revelstock sortait du garage. À nouveau, je la suivis. Oh, il pleuvait par bonheur et je pus garder la piste sur la route de Hertz's. Et je la vis disparaître dans l'hôtel. Puis quelqu'un remisa l'auto au garage. Oh, j'attendais, je ne savais trop quoi. L'inquiétude que j'avais ressentie au début de cette poursuite me revenait. Et tout à coup, je vis arriver une ambulance automobile. On en sortit un brancard sur lequel une femme était couchée. Clavel en prit possession et l'ambulance s'éloigna. Jamais ma curiosité n'avait été éveillée à ce point. Oh, je répugnais à entrer dans l'hôtel par la grande porte. Je fis le tour des bâtiments et je remarquai bientôt une ouverture laissée béante par les ouvriers. J'y pénétrai. Je me trouvai alors dans un endroit très sombre. C'étaient les sous-sols. J'entendis des voix. Je reconnus celle de la Revelstock, toujours semblable à celle de Miss Aslander. Mon instinct ne m'avait pas trompé, mais ce qu'elle disait figeait mon sang dans mes veines, et je sentis mes cheveux se dresser sur ma tête. Tout le plan infernal conçu par ces bandits me fut ainsi révélé. Je me jurai de le déjouer. Je parcourus les sous-sols, essayant de découvrir le trou par lequel Arnold devait disparaître. Et je le trouvai au milieu d'un amas d'échafaudages et d'outils abandonnés. Oh, d'ailleurs, je n'eus pas longtemps à attendre. Je reçus positivement mon fils dans mes bras. Par bonheur, ses vêtements s'étaient accrochés à l'un des madriers et avaient amorti considérablement sa chute. Eh bien, vous savez le reste. Et Sir Godley conclut. Désormais, ma chère Nora, vous êtes en sécurité, mieux même qu'en sécurité. En disant ces derniers mots, il avait souri tout en dirigeant son regard vers son fils. Il y eut un silence, et c'est encore le vieux banquier qui le rompit. Mon Dieu, je crois qu'Arnold, pour une fois, manque de courage ou de décision. Mais moi, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis un vieil homme, impatient de voir enfin du bonheur autour de moi. Nora, mais jamais je n'aurais pensé rencontrer une belle fille qui me plut autant que vous. Allez, ne me faites pas trop attendre, mes enfants.